Bonjour à tous. C'est merveilleux. Vous êtes tous à l'église. Vous avez tous prié aujourd'hui. Vous avez tous loué. Donc vous n'avez que des moments formidables dans votre vie et tout va bien. C'est vrai? Moi, je suis pas normal. Je suis pas normal parce que je vais à l'église, je prie, je loue et pourtant, dans ma vie, il y a des hauts et il y a des bas. Donc je dois être un mauvais chrétien. Et en plus, les moments où dans ma vie il y a des hauts, où tout se passe comme je veux, comme j'ai envie, c'est pas forcément les moments où j'ai la meilleure relation avec Dieu. Et à l'inverse, il y a des moments où il y a vraiment des passages difficiles. Et bah, c'est des moments des fois où je suis dans le calme, où je suis dans la paix, où je prie beaucoup et où je sens que Dieu est présent. Donc ça va pas du tout, si c'est pas comme ça normalement. Quoique, si on regarde dans la Bible, parce que vous commencez à me connaître. Chaque fois que je me pose une question, je vais regarder dans la Bible et j'essaie de trouver des personnages qui passent par les mêmes choses. Alors dans la Bible, est-ce que les moments de haute réalisation spirituelle sont également les moments où on est béni dans notre quotidien? Par exemple, Jacob le trompeur, à un moment donné, il réussit tous ses plans. Il a envie de, bon, c'est pas l'aîné, mais il a envie d'être le chef, il a envie d'avoir tous les bénéfices. Il réussit à ce que son frère lui revende son droit d'aînesse. Il réussit à recevoir la bénédiction paternelle. Vulgairement, il a enflé tout le monde. Il réussit tous ses plans. Ça devrait être génial pour lui. Eh ben non. C'est un moment où il est obligé de fuir, où il a peur pour sa vie, parce que son frère s'enflamme de colère contre lui. Il va être exploité pendant 14 ans par son oncle. Quand il va partir de chez son oncle, il va le faire en cachette. Et là encore, il va avoir peur d'être tué par son frère. Et le moment où il a tout réussi, c'est le moment où tout s'effondre et où il s'enfuit. Le moment où il revient, où il craint pour sa vie, c'est le moment où il est déclaré vainqueur par Dieu. Ça n'a pas de sens. Mais c'est peut-être juste un cas unique. David, le grand roi David, au moment où il est poursuivi par Saül, où il n'est pas encore roi justement, il a été dit qu'il serait roi. Mais il y a un roi qui est déjà sur le trône et qui ne veut pas de lui. Et même s'il pouvait le tuer, histoire de régler le problème, et ben au moment où il est poursuivi, au moment où il est SDF lui aussi, où il dort dans des grottes, où il est avec une bande de gens pas forcément très recommandables qui se sont ralliés à lui, c'est le moment où il écrit les plus beaux psaumes de sa vie. Et par contre, le moment où sa royauté a été affirmée, où il a un palais magnifique, où il a des généraux sur lesquels il peut faire confiance et qui gagne toutes les batailles, il se repose à son palais, il se balade sur le toit, et là, il voit la femme du voisin qui est en train de se baigner, et il tombe dans les plus gros pièges de sa vie, il fait les pires bêtises. C'est ce qu'on appelle un bas. Alors que tout semblait lui réussir. Et à l'inverse, les moments où vous êtes apparemment dans une situation pas très confortable, ça peut correspondre à un haut de votre relation avec Dieu. Je pense à Élie, tout au début de son ministère, quand Dieu lui demande de dire qu'il n'y aura ni rosée ni pluie pendant les prochaines années. Juste après avoir annoncé ça, Dieu lui dit d'aller au torrent à Kérit. Donc il va s'enfuir, il va être seul, et pourtant tous les jours, Dieu va lui donner de quoi manger, va envoyer des corbeaux pour le nourrir, etc. Tous les jours, il a le témoignage que Dieu est en train de s'occuper de lui. Donc manifestement, les moments où tout semble nous réussir dans notre vie, où on est béni, ce n'est pas forcément les moments où on est au plus haut de notre relation avec Dieu. Et à l'inverse, les moments où on passe dans des difficultés, c'est des moments où Dieu peut être présent au quotidien et où on en est conscient surtout, parce que Dieu est toujours présent au quotidien. Alors quand on parle des bas dans notre vie, faut être honnête, très souvent ça correspond à des moments de découragement. Et le découragement, il vient souvent d'un manque de foi. Je pense à Moïse. Quand on parle de Moïse, souvent qu'est-ce qu'on se rappelle de lui? La mer rouge qui s'ouvre en deux. Le fleuve qui se remplit de sang. Ces choses-là, enfin, tous ceux qui ont vu le film, quoi. Et pourtant, quand on reprend le moment où Dieu l'appelle. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Et il mena le troupeau derrière le désert et il vient à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consommait point, ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point ? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit,
Moïse, Moïse.
Et il répondit, me voici. Moïse est attiré par Dieu. Instinctivement, il le reconnaît et il répond à son appel. Mais quand Dieu lui dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? Elle est importante cette question-là. Qui est-ce que je suis ? Et souvent, c'est un des points qui pose souci dans notre vie. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est pas d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. » Et l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme ? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi l'Éternel ?» En fait, étonnamment, quand Dieu lui dit, « Tu vas aller voir le Pharaon, tu vas faire des miracles, tu vas... » C'est pas ça qui pose souci à Moïse. Ce qui pose souci à Moïse, c'est « J'aime pas parler en public. » Non, Seigneur, c'est ouais, des miracles si tu veux, mais je ne veux pas parler devant les autres. La première question, c'était qui suis-je ? La deuxième question, c'est quelles sont mes qualités ? Et ce n'est pas que Moïse qui réfléchit comme ça. Quand l'Éternel dit à Moïse d'envoyer des espions pour explorer le futur pays qu'il va leur donner, quand les espions reviennent, ils commencent par dire « À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. » Et en voici les fruits. Ils ont ramené une grappe de raisin qui est tellement énorme qu'ils sont obligés de la porter à plusieurs sur un bâton. C'est vraiment, en fait, c'est exactement ce que l'Éternel leur a dit. Quand ils disent « À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel », c'est comme ça que Dieu l'avait décrit. Donc ils disent « Oui, Dieu nous a dit la vérité. C'est exactement ce pays que Dieu nous a promis. » Mais, aïe. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak, c'est-à-dire des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, etc. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Et vous vous rendez compte, en fait, quand vous les écoutez, ce qu'ils sont en train de dire, c'est à nouveau, qui sommes-nous ? On est minuscules, on n'est pas forts. Et ils commencent par dire la vérité, ils commencent par rappeler la promesse que Dieu leur avait faite. Oui, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais nous, on est trop petits, on n'est pas assez forts, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est ça le problème. Quand on est découragé, on transforme la réalité et on l'adapte à notre vision des choses. Et oui, il se voit tout petit, il se voit faible. Et là, il commence par dire la vérité qui est conforme à ce que Dieu leur a promis. Et là, il commence à dire, oui, mais il y a ci, il y a ça. Et à la fin, il commence par dire que c'est un pays génial. Et à la fin, il décrit le pays. Il le déconsidère. Ils finissent par ressortir tous les points négatifs. Et finalement, ils rendent ça un endroit horrible, effrayant. Alors là, jusque-là, il n'y a pas de scoop. Le monde sait qu'avoir une mauvaise image de soi est nuisible. Si vous allez dans une librairie, vous trouverez des tas de méthodes pour commencer à croire en vos propres capacités et pour y remédier. Mais le découragement, il ne vient pas seulement d'une mauvaise image de soi. Il peut aussi venir d'une trop bonne image de soi. Et ça, c'est plus rare qu'on le dise. Je vais prendre l'exemple de Naaman devant Élisée. Je lis en 2 Rois, chapitre 5, verset 1. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. 2 Rois 5, 9. Donc en fait, il est lépreux, il cherche comment être guéri. Et il se trouve justement qu'il a une petite esclave hébreu qui lui dit « Mais dans mon pays, il y a un prophète qui pourrait vous guérir. » Il prie Dieu et réglé. Donc Naaman va voir le roi de Syrie, qui l'autorise, qui envoie une lettre au roi d'Israël en lui demandant de guérir son serviteur. Le roi d'Israël, lui, est très embêté. Il dit, mais vous voyez bien qu'il cherche un motif pour faire la guerre. Mais Élisée lui fait dire, non, il y a des prophètes en Israël. Envoie-le-moi. Alors en 2 Rois 5-9, Naaman vient avec ses chevaux et son char et il s'arrête à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui fait dire, donc il est devant la maison, hein, il y a juste à sortir. Élisée lui fait dire par un messager, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair reviendra saine et tu seras pur. Et Naaman fut irrité. Aujourd'hui, je crois qu'on traduirait furieux. Il s'en alla en disant, quoi ? Je ne disais, il va sortir vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. C'est toujours la même question. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Quelqu'un qui mérite d'être mieux traité que ça ? Quelqu'un qui mérite des honneurs ? Je suis le préféré de mon roi, je suis un personnage puissant. Israël, ils sont soumis, ils ont peur de nous. Et l'autre, il se permet de m'envoyer un messager, il vient même pas me voir, mais on m'a jamais traité comme ça. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Quelles sont mes qualités ? Ce qui vient de chez moi vaut mieux que ce qui vient de Dieu. Mes fleuves, mon pays, ça vaut mieux que ce... Le Jourdain, c'est pourri le Jourdain. C'est tout boueux, c'est un torrent. En réalité, le message, c'est ma vie telle qu'elle est, elle vaut mieux que la vie que Dieu me conseille de mener. Et ça fait peur. Parce qu'on a beau venir à l'église le dimanche, on a beau écouter des choses, on a beau lire notre Bible, etc. Quand on a le choix entre donner à quelqu'un qui est dans le besoin et s'acheter une voiture un peu plus belle. Ah, merci Seigneur, tu m'as béni, tu m'as donné tout cet argent. Quand on a le choix entre faire du bien à une personne qui n'arrête pas de nous faire des petites crasses au boulot. Et quand on s'aperçoit que les autres ne l'aiment pas non plus, mettre aussi une petite pique. On fait quoi en général ? On le bénit ou on se joint à la meute des loups pour le descendre ? Alors attention, parce que nous aussi, des fois, on a tendance à se dire, finalement, ma vie telle qu'elle est, elle est aussi bien que la vie que Dieu me conseille de mener. On ne le dit pas, mais on le fait. Et ça, c'est encore pire. Tout ça pour vous dire quoi ? C'est que le manque de foi, souvent, il vient de ce qu'on regarde à nous et non pas à Dieu. Nous étions à nos yeux. Qui suis-je ? Quelles sont mes qualités ? On se trouve trop bien ou pas assez bien, mais on ne se pose pas la question de savoir qui on est pour Dieu. Et donc, on se trompe toujours d'analyse. Pour autant, on peut être découragé quand il y a des moments de difficulté. Mais tant que vous n'avez pas choisi de vous apitoyer sur vous-même, ce n'est pas un péché, c'est une épreuve. Très souvent, on s'en veut d'être découragé. Michel nous avait raconté une fois qu'on lui demandait si c'était pas trop dur avec les problèmes de santé de ses enfants et elle avait eu envie de dire « Non, non, tout va bien avec le Seigneur. » Et puis non, elle a choisi d'être honnête, dire « Si, ok, si, c'est dur. » Mais bon, voilà, ça le fait, mais c'est vrai que c'est dur. Il y a des moments, c'est décourageant. Mais en disant ça, et garder l'espoir. Le problème, c'est que des fois, on choisit d'être apitoyé, de s'apitoyer sur nous-mêmes. Moi, je l'ai fait à certaines périodes de ma vie, et souvent, je dis que le personnage biblique dans lequel je me retrouve le plus, c'est Jonas. Alors Jonas, on aime bien l'histoire du poisson, vous savez, le Pinocchio, mais avec un serviteur de Dieu, où il se fait avaler par une baleine, tout ça. Mais il y a le dernier chapitre que je trouve assez intéressant. Le chapitre 4 dans le livre de Jonas. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, vous vous rappelez en fait, Jonas, s'il ne veut pas aller dans la direction que Dieu lui demande, c'est parce que Dieu lui demande d'aller annoncer à une ville qui sont les ennemis d'Israël qu'ils vont être détruits s'ils ne se repentent pas. Et Jonas, il ne veut pas y aller, il veut qu'ils soient détruits. C'est les ennemis de son peuple. Alors j'ai entendu beaucoup d'études où on disait « Oui, mais Jonas, c'était un patriote. » En fait, il avait la vision du peuple élu et non pas la vision du Dieu universel. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Donc Jonas a tout fait pour ne pas aller dans la direction que Dieu lui donne. Dieu change les circonstances et l'oblige à remplir quand même sa mission. Et il va prêcher à Ninive, et effectivement, les Ninivites se repentent. Et Jonas le prit très mal, parce que Dieu renonce à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Jonas le prit très mal, et il se mit en colère. Il adressa cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel, je te l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays. Et c'est pour prévenir ça que je me suis enfui à Tars. Car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère, riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. » Ça, c'est quand même inédit. Quelqu'un qui engueule Dieu parce qu'il est trop sympa. C'est pas fréquent. « Maintenant, Éternel, prends ma vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. » L'Éternel lui répondit, « Jonas, fais-tu bien de te mettre en colère ?» Mais Jonas boude. Il sort de la ville, il s'installa à l'est de la ville, et il construisit là une cabane, il s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait. L'Éternel, Dieu, fit pousser un ricin qui se leva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur sa tête afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Donc, déjà, Jonas, il pourrit Dieu, et Dieu, il lui fait pousser un petit arbre en une nuit pour qu'il ait de l'ombre. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Allez, quand on est chrétien, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde que Dieu, mais les bénédictions, on les veut bien toujours. Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, de sorte que le ricin se dessécha. Et lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant. Le soleil tapa sur la tête de Jonas. Sur le point de tomber en défaillance, Jonas demanda la mort en disant « La mort vaut mieux pour moi que la vie. » Tous les jours, il va nous le faire. Hein. Chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, « Ah, je veux mourir !» Et Dieu demanda à Jonas « Fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce ricin ?» Dieu lui montre qu'en réalité, son problème, c'est pas d'être patriote, c'est pas sa fidélité vis-à-vis de son peuple, des tas de choses qui pourraient paraître quelque part logiques, défendables et même honorables. Mais en réalité, son problème, c'est pas ça. Ça, c'est des prétextes. Son problème, en réalité, c'est qu'il refuse que Dieu soit son Seigneur quand il ne va pas dans la direction qu'il veut. Quand Dieu ne fait pas ce qu'il veut, ben Jonas, il n'est pas content. Il n'est pas d'accord. Et vous, je ne sais pas, mais moi, ça m'arrive. En général, je finis par le regretter quand je m'en rends compte. Mais il y a des moments où on prie, on a tellement... Ouais, j'en ai tellement envie, je suis sûr que c'est ta volonté, Seigneur. Ben non, pas toujours. Et Jonas, qui est quand même quelqu'un qui persiste et qui signe, répond « Oui, je fais bien de me mettre en colère au point de désirer la mort. Voilà, là, j'ai raison. » Alors l'Éternel lui dit « Regarde, tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser, qui est sorti de la terre en l'espace d'une nuit et qui a péri la nuit suivante. Et moi, tu voudrais que je n'aie pas pitié de la grande ville de Ninive, où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre. » Ce que Dieu lui dit, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de moi. Toi, tu es en train de te contrarier pour un arbuste et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de cette ville où il y a 120 000 personnes. Et en plus, tu oublies un truc, il n'y a pas que les personnes, il y a même les animaux qui ont du prix à mes yeux. Quand on est malmené, on cherche une raison par rapport à nous. Voilà, j'ai prié pour ça, pourquoi Dieu ne le fait pas ? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il ne veuille pas aller dans ma direction ? Mais non. On est en train de se demander, qu'est-ce que je dois demander dans la prière pour que Dieu m'exauce ? Mais non, ce qu'on doit se demander, c'est comment est-ce que je dois réagir pour que Dieu soit glorifié ? C'est pas à propos de nous, c'est à propos de Dieu. Bon, Jonas, il l'a choisi. On l'a vu, c'est quelqu'un, il est pénible, il est comme ça. Je ne jette pas la pierre, je suis comme lui. Mais vous avez des personnages extraordinaires qui ne l'ont pas choisi. Je pense à Anne, la mère de Samuel. Vous savez, Anne, elle était mariée et son mari l'aimait énormément. Mais il avait pris une deuxième femme parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et le problème, dès qu'il y a deux épouses, il y a beaucoup de jalousie. Et tous les ans, quand ils vont à Jérusalem, il y a la deuxième épouse qui se moque d'elle parce qu'elle est stérile. Et tous les ans, Anne pleurait et restait sans manger. Aujourd'hui, on dirait, Anne fait une gentille petite dépression et elle est anorexique. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Anne, comment est-ce qu'elle réagit ? Elle n'en veut pas à Dieu. Au contraire, elle va dans le temple et elle pleure. Très affligée, Anne prie à l'Éternel en pleurant un chaud de larmes. Et elle fit le vœu suivant. « Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, Si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. » Et l'Éternel intervint en sa faveur. Elle fut enceinte, et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel, ce qui signifie « Dieu m'a entendu ». C'est quelqu'un qui a un bas, et pourtant, elle ne délaisse pas sa relation avec Dieu. Au contraire, elle se confie complètement en Dieu, et Dieu l'entend et la délivre. Alors là, c'est un miracle à peu près évident, mais des fois, c'est pas si évident que ça. Si vous prenez David, au moment où il est poursuivi par Saül, à un moment donné, il a tellement plus de refuge qu'il va chez les Philistins. Alors que, quelques mois avant, il est à la tête d'une armée pour se battre contre les Philistins. Et là, il est tout seul et il va dans leur pays. Et il est reconnu. Il va à la cour d'Akish, le roi de Gath, et les hauts fonctionnaires le reconnaissent. Et ils disent, mais c'est David, c'est celui pour qui les femmes chantaient en Israël en chantant « Saül a vaincu ses milliers » et David ses dizaines de milliers. Vous imaginez l'intérêt stratégique qu'il a, ce personnage. C'est un général. Et David, il prend ça très au sérieux. Il eut une grande peur d'Akish, le roi de Gath, et il fit semblant devant eux d'avoir perdu la raison. Il se comportait de manière extravagante et faisait des marques sur le battant des portes, et il laissait la bave couler sur sa barbe. Et Akish dit à ses conseillers, mais vous n'êtes pas bien. C'est un fou. Pourquoi est-ce que vous me l'avez amené? Vous croyez que j'ai pas assez de dingue ici? Vous m'amenez encore celui-là là, qui est en train de se baver dessus? Allez, foutez-moi ça dehors. C'est pas très glorieux, hein. C'est pas tellement ce genre de passage dont on se rappelle pour le grand roi David, le grand général, celui que Dieu aimait, celui que Dieu approuvait. Oui. Mais l'intérêt de ce passage, c'est quand vous lisez les psaumes, le psaume 34... Le premier verset, c'est un psaume que David écrivit lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimélec qui le chassa, de sorte que David puisse en aller. Et ce psaume, c'est « En tout temps, je remercierai l'Éternel. À jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel, que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Celui qui regarde vers lui est rayonnant de joie et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. » Pourtant, on n'a pas vu de miracle ou quoi que ce soit. Mais David ne se retourne pas sur la honte qu'il a ressentie à ce simulacre, sur la peur qu'il a eue, qui l'a conduit à se comporter comme ça. C'est un épisode humiliant. Mais lui, David, ce qu'il veut retenir, c'est la promesse que Dieu lui a faite depuis des années, depuis qu'il est enfant ou jeune homme, d'en faire un roi. Et il se réjouit de ce qu'une fois de plus, Dieu a permis qu'il traverse une épreuve et qu'il continue la route vers son destin. Encore une citation de Michel, ce qui est le plus important, ce n'est pas l'obstacle, c'est la promesse. Et David, ce qui se rappelle, c'est la promesse, pas les circonstances de l'obstacle. Quelquefois, pourtant, on ne s'en remet pas. Quelquefois, les bas dans nos vies sont tellement bas qu'on ne s'en remet jamais totalement. Et là, je pense à Élie. Et pourtant, Élie, Moïse, ça fait vraiment partie des personnages qui sont des précurseurs de Jésus. Mais à un moment donné, Élie, après une grande victoire, Jézabel le menace. Elle n'envoie pas des gardes pour essayer de le tuer. Le roi Akab avait déjà essayé. Et les soldats ont été pulvérisés dans le feu, par la foudre. Non, Jézabel est plus maligne que ça. Elle lui envoie un messager pour lui dire « Tout ce que tu as fait à mes prophètes, je te le ferai à toi. » Parce que si elle avait envoyé directement une attaque contre Élie, Dieu l'aurait défendu immédiatement. Mais là, elle lui envoie une menace. Et là, Élie commence à réfléchir à cette menace. Il commence à psychoter. Il commence à la retourner dans sa tête. Et d'un seul coup, cette menace, elle grossit. Et Élie se met à avoir peur. Et il s'enfuit. Et il fait une dépression. Dieu prend soin de lui, il accepte de lui donner un successeur pour continuer son ministère, et il choisit de ce moment-là pour lui donner une nouvelle révélation de qui il est. Je lis dans 1 Roi 19, chapitre 3. Élie prit peur et il s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert, et après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un jeune isolé et il demanda la mort. C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Ah, encore un qui demande la mort. Mais il n'est pas du tout dans les mêmes dispositions d'esprit que Jonas. Jonas, on voit qu'il en voulait à Dieu. Là, on dirait qu'il s'en veut d'avoir pris peur devant les menaces de mort de Jézabel. Je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce qu'il va le délivrer immédiatement? C'est pas ce qui va se passer. L'ange de l'Éternel le toucha et dit « Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Alors Élie se leva, mangea et but. Et fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Élie est épuisé, il a envie de mourir. Et Dieu le soigne un petit peu, il lui donne ce qu'il faut de force et lui demande de traverser un désert. Satan, on préfère les histoires où les gens sont délivrés immédiatement, mais là Dieu va lui demander de continuer à faire des efforts. Et Élie va lui obéir. C'est là qu'on voit qu'il n'est pas du tout dans les mêmes dispositions que Jonas. Mais au bout de ces 40 jours d'épreuve, ces 40 jours de manque, bien qu'il se soumette toujours à Dieu, il n'a pas l'air d'aller mieux. Là-bas, Élie entra dans la grotte et y passa la nuit. L'Éternel lui adressa soudain la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Élie répondit. « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste. Et les voilà, qui cherchent à me prendre ma vie. » L'Éternel dit, « Sors, tiens-toi sur la montagne, devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. Et l'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, il y eut un bruissement doux et léger. Et dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et il sortit se placer à l'entrée de la grotte. Au fond de lui-même, Élie, il connaît Dieu. Il ne se laisse pas impressionner par des grandes démonstrations. Vous savez, quand il y a 2 semaines, j'avais parlé de l'Apocalypse et il y a plein de personnes qui vont se laisser duper par l'Antéchrist parce qu'il fera des grands miracles. Élie, il connaît son Dieu. Il ne se laisse pas impressionner par l'ouragan, par le tremblement de terre. Mais par contre, dès qu'il reconnaît la présence de Dieu dans le bruissement doux et léger, il sort et il va à sa rencontre. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre ma vie. » Est-ce qu'il n'y a pas une accusation de Dieu ? « J'ai fait ton alliance, tes autels, tes prophètes, ma vie. » L'Éternel lui dit, « Va. » Retourne sur tes pas, et bim, 40 jours, à travers le désert, jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète, pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée d'Hazaël sera mis à mort par Jéhu. Tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Mais toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. Élie, il est complètement cassé dans son ministère. Il continue d'obéir à Dieu. Il continue de savoir qui il est capable de le reconnaître. Mais au fond de lui, il en veut au Seigneur et il est meurtri. Et le Seigneur répond comment? Il ne le punit pas, déjà, ça c'est important. André Michel nous dit toujours « Dieu n'est pas un sniper ». Dieu ne le punit pas. Il lui révèle ses plans pour l'avenir. Il lui explique comment il va rétablir la situation et la justice. Et il lui fait remarquer aussi avec beaucoup de douceur qu'il a tort dans ce qu'il dit, dans sa perception. Il dit « Je suis tout seul ». Dieu lui dit « 7000 hommes ont partagé ton combat et 7000 hommes me sont restés fidèles ». Mais il ne lui dit pas « T'as tort ». Il lui donne juste les éléments pour qu'il en tire lui-même les conclusions. Et Dieu lui annonce aussi qu'il lève quelqu'un pour prendre sa place, puisqu'Élie ne souhaite plus continuer, il n'a plus la force. Mais vous remarquerez quelque chose, Dieu ne lui enlève pas son ministère. Il le laisse continuer, il lui laisse le temps de former Élisée et de le préparer. Et au moment où sa tâche sera terminée, il ne le laissera pas mourir, il l'enlèvera au ciel dans une manifestation de sa gloire, un char de feu qui viendra le chercher. Pourquoi ? Parce que Dieu accorde plus d'importance à vous en tant que personne qu'à votre ministère. On collabore avec Dieu, On cherche à remplir sa mission, mais il ne faut jamais oublier que Dieu nous accorde plus d'importance à nous en tant que personne qu'à notre ministère. Il peut lever d'autres personnes. S'il le fait, ce n'est pas pour nous tenir en esclavage et parce qu'on doit cravacher pour lui. C'est parce qu'il souhaite collaborer avec nous pour établir son royaume. Ok, mais si tel est le cas, si Dieu accorde plus d'importance à nous en tant que personne, pourquoi est-ce qu'il ne nous épargne pas les épreuves ? On n'aime pas ça, les épreuves. Dieu, t'as pas compris ça encore ? On en a marre, on veut une vie facile, on veut être béni tout le temps. Ouais, Dieu ne nous a pas promis une vie sans épreuves. Il nous a juste promis d'être à nos côtés pour les surmonter, tant que nous nous confions en lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Jésus, il faisait faire des miracles aux autres dans les difficultés. Pas quand tout allait bien. Hein. Les multiplications des pains et des poissons, ce n'était pas quand tout le monde avait déjà de quoi manger. Ça aurait servi à rien. C'est dans les situations de manque, dans les situations de stress. Vous vous rappelez quand Pierre marche sur l'eau ? Il a envoyé les apôtres en avant, ils sont sur la barque, le vent est en sens contraire. Donc ils sont crevés, ils n'y arrivent pas. Et Jésus, pendant ce temps-là, il ne paye pas son abonnement de piscine, il marche sur l'eau, il traverse les temps comme ça. Il va plus vite que le bateau. Et là, les apôtres, quand ils le voient, ils sont paniqués. Ils disent « Ah, un fantôme !» Et Jésus leur dit « Rassurez-vous, c'est moi. » Et Pierre, tout de suite, lui, il voit ça et fait « Ok, Seigneur, si c'est toi, tu m'ordonnes de venir te rejoindre sur l'eau. »« Viens, lui répondit Jésus. » Aussitôt, Pierre descendit de la barque et il se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur !» Jésus le rattrape et après il lui dit « Ta foi est bien faible, pourquoi as-tu douté ?» Et moi, le truc qui m'épate là-dedans, c'est que Pierre, ce qui lui pose souci, c'est pas de se dire « c'est pas possible de marcher sur l'eau ». Non. Il voit Jésus qui marche sur l'eau, Jésus lui dit « vas-y, viens rejoins-moi ». Pierre, il y va. Et ce qui va lui poser souci, c'est que d'un seul coup, il va regarder autour de lui et va se dire « zut, le vent est fort ». C'est des circonstances qui sont totalement extérieures. Nous aussi, on est prêt à croire que Dieu est prêt à faire des miracles. Surtout pour les autres. Mais dès que nous, on est malade, quand notre compte en banque est à découvert, quand on est malheureux, quand on a fait des mauvais choix, est-ce qu'on fait confiance à Dieu ou est-ce qu'on se met à couler à cause des circonstances extérieures ? Vous, je ne sais pas. Moi, j'ai souvent tendance à me fixer sur les circonstances extérieures. Je suis un peu comme Pierre aussi. Et pourtant, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que les circonstances extérieures, Jésus, il les maîtrise totalement. Jésus, il était capable de dire à la tempête « Tais-toi, arrête-toi !» Et le vent se calmait aussitôt. Quand on réclame l'impôt du temple, il y a des gens qui viennent voir Pierre et lui disent « Ton maître, il paye pas ?» Et Pierre, tout de suite, il fait « Si, si, il paye !» Et Jésus lui fait la leçon, il dit « Pierre, qui est-ce qui doit payer l'impôt ? C'est les fils ou les étrangers ?»« Ah bah, c'est les étrangers. Et moi, je suis qui ?»« Ah bah, toi, t'es le fils. » Mais Jésus, lui... Une fois que Jésus lui a montré qu'il a peut-être parlé un petit peu trop tôt, il lui dit « Allez, on ne va pas jeter ces gens dans le trouble. Tu vas descendre jusqu'au lac, tu lances ta ligne à l'eau et tu attrapes le premier poisson qui va mordre. Tu lui ouvres la bouche et à l'intérieur, tu trouveras une pièce d'argent. Tu la prends et tu la donnes aux agents en paiement de l'impôt pour nous deux. » Voilà, Dieu maîtrise ses circonstances complètement. Dieu peut utiliser un moyen aussi improbable qu'un poisson pour procurer de l'argent. Et je veux vous rappeler un petit truc. Pourquoi un poisson ? Moi, je crois qu'il y a une raison simple. C'est que Pierre, c'est un pêcheur. Jésus lui demande pas de faire quelque chose d'incroyable pour lui. Il lui demande de faire ce qu'il fait déjà tous les jours. Mais là, simplement, il va changer les circonstances. Et de manière extraordinaire, il va résoudre le problème. Alors, celui qui a envie d'aller dans des pays lointains en tant que missionnaire, il est béni. Hein. Si c'est l'appel de Dieu, c'est formidable. Il va être béni et il va porter du fruit. Mais si vous souhaitez servir Dieu de tout votre cœur et que Dieu vous appelle simplement à le faire à l'endroit où vous êtes, Dieu peut commencer à faire des miracles à l'endroit où vous travaillez, quelles que soient vos épreuves et quelles que soient les circonstances que vous traversez. Dieu les maîtrise. Je voudrais parler de Jacob. Dans Genèse 32:7, vous vous rappelez, Jacob, il a dû partir, il avait... réaliser tous ses plans pour essayer d'obtenir l'héritage, le pouvoir, etc. Il est obligé de partir, exploité pendant 14 ans. Il revient, il est poursuivi par son oncle. Finalement, il trouve un moyen de s'arranger avec son oncle. Mais il reste un dernier problème. Quand il est parti il y a 14 ans, son frère voulait le tuer. Et là, il sait pas ce qui va se passer. Il sait pas comment ils vont. Ils ont eu aucun contact en 14 ans. Les messagers revinrent auprès de Jacob, Genèse 32:7, en disant « Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü, et voilà, il vient à ta rencontre avec 400 hommes. » Oh oh. A priori, c'est pas pour organiser une rave party. Il doit toujours m'en vouloir. Jacob eut très peur. L'angoisse le saisit. Il répartit en deux camps les gens qui étaient avec lui, le menu et le gros bétail. Car il se disait « Si Ésaü attaque l'un des deux camps et le détruit, celui qui restera pourra en réchapper. » Puis Jacob pria « Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, ô Éternel, toi qui m'as dit « Retourne dans ton pays, dans ta famille et je te ferai du bien. » Oh Seigneur, je suis indigne de toutes les faveurs que tu as témoignées avec tant de fidélité à ton serviteur. Et maintenant je me trouve à la tête de deux camps, alors que quand je suis passé le Jourdain, je n'avais que mon bâton. Délivre-moi, je t'en prie, de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il vienne me tuer, sans épargner ni mère ni enfant. » Mais pourtant, toi, tu m'as dit, je te ferai du bien et je rendrai tes descendants aussi nombreux que le sable de la mer, que nul ne peut compter. Jacob, lui, il sait que ce qui est important, ce n'est pas l'obstacle, c'est la promesse. Et il rappelle à Dieu les promesses qu'il a reçues. Ça, c'est une attitude de foi. Et Jacob resta seul. Au verset 25, « Alors, un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche, qui se démit. Pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, le jour se lève. » Jacob répondit, « Non, je te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. » En train de se battre, il demande la bénédiction. « Quel est ton nom ? » demanda l'homme. « Jacob, répondit-il. Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, ce qui signifie « il lutte avec Dieu ». Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Et Jacob nomma ce lieu Péniel, la face de Dieu, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. En quoi est-ce qu'il a vaincu? Il n'était pas plus fort que l'autre. Hein. L'autre, quand il a vu que Jacob ne le lâchait pas, en un coup, il lui démêle l'articulation de la hanche. Si vous regardez sur un squelette, c'est la plus grosse articulation du corps. Il pouvait le briser en deux à n'importe quel moment. Mais Jacob, malgré la douleur, il continue de s'accrocher à lui, il refuse de le laisser partir. Avant que cet étranger avec qui il se bat le bénisse. Jacob, comme Élie, il est capable de reconnaître Dieu même au milieu de circonstances inhabituelles. Mais ce qui se passe là, c'est que depuis tout le début de sa vie, il a essayé d'obtenir ce que Dieu lui avait promis, c'est-à-dire qu'il serait plus puissant que son frère aîné, que ce serait lui qui serait à la tête de leur descendance. Tout ça, il essaie de l'obtenir par ses propres efforts et par sa ruse. Mais là, il a compris quelque chose. C'est ce que Dieu lui a promis. Il ne peut l'obtenir qu'en s'accrochant à Dieu de toutes ses forces. Mais encore fallait-il qu'il le comprenne et qu'il ne change plus d'avis après par la suite. Parce qu'il y a sa nature. On l'appelait Jacob, ça veut dire le trompeur. Et cette nuit-là, il a dû aller très très loin dans l'épreuve. Il a souffert. Mais en recevant la visite de Dieu et sa bénédiction, en étant prêt à souffrir pour être béni par Dieu, plutôt que d'essayer d'obtenir par lui-même les mêmes résultats par son intelligence, il découvre lui-même combien il a changé. L'épreuve, en réalité, c'était pas son frère, c'était sa propre nature. Et très souvent, le découragement qu'on peut ressentir, il trouve sa source dans le fait que nous oublions constamment que nous sommes créés par Dieu et enfants de Dieu. Et on se confie dans notre nature humaine au lieu de se rappeler qu'on a notre papa qui veut s'occuper de nous et nous aider à franchir les obstacles. On regarde à nous au lieu de regarder à Dieu. On regarde aux difficultés au lieu de nous rappeler les promesses de Dieu. On oublie que nous ne sommes pas des hommes, mais des enfants. Et que nous avons besoin de tenir la main de notre papa pour apprendre à escalader les marches. Pierre, celui qui a marché sur l'eau comme Jésus, celui qui était tout le temps sûr de lui, qui était toujours le premier à se lever. Vous vous rappelez à quel moment il a été instauré dans son ministère ? De leader de l'église chrétienne qui était en train de naître au moment où il était au plus bas de sa vie. Il a renié trois fois Jésus. À ses yeux, il n'a plus aucune valeur. Et là, Jésus lui dit, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre, ça lui fait mal. « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui demande trois fois ça et trois fois lui répond, « Prends soin de mes brebis. » apprendre qu'il n'était pas capable de se faire confiance à lui-même, qu'il ne pouvait pas avoir confiance dans ses capacités, dans sa volonté, c'était la dernière marche que Pierre avait à monter avant d'être capable de devenir un leader. Nos hauts et nos bas ne correspondent pas vraiment à la réalité, notre relation avec Dieu. Parce qu'on ne le regarde pas avec les bons yeux. Pour conclure, je vais m'éloigner un petit peu du sujet, mais en réalité, je ne suis pas si loin que ça. J'aime beaucoup le premier chapitre de Josué. Il y a trois techniques de l'ennemi qu'il utilise pour nous décourager. Donc, pour nuire à notre relation avec Dieu, pour qu'on ait des bases spirituelles. Nous maintenir dans notre vieille nature, et ça, vous vous rendez compte que c'est ce qu'ont traversé Moïse, qui pensait qu'il n'était pas capable de parler en public, et même quand Dieu lui disait « Si, si, moi je t'en donne le pouvoir, c'est moi qui t'ai créé. » Moïse disait « Non, non, j'y arriverai pas. » C'est Jacob aussi, qui avait une nature de trompeur, et qui a eu beaucoup de mal à surmonter ça. Notre vieille nature, le péché, pour avoir le droit de nous accuser. Ça, c'est David avec Bathsheba. Ça peut briser un règne à partir du moment où on se rend compte qu'on n'est pas le grand roi qu'on imagine. C'est Pierre quand il renie Jésus. Notre vieille nature, le péché et l'intimidation lorsque les deux premières tactiques ont échoué. Ça, c'est Élie. Il n'avait pas commis de péché, il n'était pas dans sa vieille nature, mais Jézabel a réussi à vraiment lui faire peur. Et cette peur a ruiné son ministère. Or, dans le premier chapitre de Josué, à trois reprises, Dieu lui dit « Fortifie-toi, prends courage. » Je lis à partir du verset 5. « Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, Josué, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. » Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Et jusque-là, moi, quand je lisais ça, je me disais, quand Dieu répète quelque chose trois fois, souvent, on a cette répétition de trois signes. Et je me dis, c'est juste pour marteler que c'est très, très important. Et en fait, je ne m'étais jamais rendu compte de quelque chose. C'est que quand vous prenez les trois « Prends courage, tiens bon » ou « Fortifie-toi, prends courage » dans la version seconde, en fait, Dieu parle de choses différentes. C'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai entré. Vous vous rappelez, les Hébreux, la première fois qu'ils ont failli entrer en Israël, ils ont dit « Non, non, on n'y arrivera pas, on n'est pas assez fort. » La vieille nature. Ils se voyaient encore comme des esclaves, pas comme des conquérants. La deuxième fois, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi. Le péché, lire la parole et la garder, l'appliquer dans sa vie. Et la troisième fois, prends courage et tiens bon et ne te laisse pas effrayer. L'intimidation. Dieu lui donne les trois tactiques de l'ennemi pour nous décourager et nous mettre en échec. Et il y a un quatrième « Prends courage et tiens bon » qui est adressé à Josué le jour-là. Mais celui-là, il ne vient pas de Dieu. Le peuple dit à Josué « Nous ferons tout ce que tu as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous voulons t'obéir en toutes choses comme nous avons obéi à Moïse. » Si vous relisez le Pentateuque, ils n'ont pas toujours obéi à Moïse. « Que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi comme il a été avec Moïse. Celui qui s'opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort. » Quelle que soit la chose que tu auras ordonnée, prends courage et tiens bon. » Alors d'un côté, le peuple reconnaît que l'autorité de Josué lui vient de Dieu. C'est super. Mais là, c'est la réponse humaine qui manque d'équilibre. La consécration de Josué, elle comporte déjà un piège. C'est celui de se réjouir de ce pouvoir que le peuple lui donne, alors que Dieu lui ne lui a donné que des responsabilités. Alors lorsque dans notre vie, nous sommes revenus à un haut, à un moment donné où tout va bien, où on nous ouvre toutes les portes et on nous déroule le tapis rouge. Assurons-nous de rester toujours aussi proche de Dieu que lorsque nous l'appelons au secours dans les temps de difficulté, pour ne pas être soumis à ce même piège. Que Dieu vous bénisse.